Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional. Souveraineté alimentaire, une discussion avec un agriculteur du Rhône. Transition énergétique, le bioéthanol, une alternative à l'essence. Et en conclusion, les nouvelles voies 2022. Calade, le journal. Avec le réchauffement climatique, les espèces invasives s'invitent en Méditerranée. En raison de la hausse des températures, les espèces marines tropicales entrées par le canal de Suez et le détroit de Gibraltar prolifèrent et chamboulent l'écosystème méditerranéen. Extrait d'un article du journal Le Monde de Guillaume Delacroix. Ferdinand de Lesseps avait-il mesuré les conséquences de ces actes ? En faisant ouvrir le canal de Suez entre la mer Rouge et la Méditerranée en 1869, le diplomate français a ouvert la porte aux espèces sous-marines des régions chaudes du globe. Un siècle et demi plus tard, à la faveur du changement climatique qui élève d'année en année la température de la Méditerranée, c'est l'invasion. Au moins 900 espèces non indigènes y ont élu domicile, dont plus de la moitié de manière permanente, a alerté début septembre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La Grande Bleue est en voie de tropicalisation. Il se passe la même chose qu'en Australie, autre région du monde où des poissons quittent les récifs coralliens pour descendre vers le sud et pour déforester les fonds marins. Révèle Sébastien Villéger, chercheur au CNRS à Montpellier. La canicule et les courants favorisent la prolifération des espèces invasives. Arrivé il y a quelques années sur les côtes du golfe du Lion, le crabe bleu, espèce exotique envahissante. Le problème avec ce crabe américain est qu'il dévore tout sur son passage, qu'il s'est acclimaté à nos latitudes et qu'il s'y reproduit aisément. Une femelle peut pondre plus de 2 millions d'œufs lors de la période de reproduction en été. Omnivore, il s'attaque à de nombreuses espèces, petits poissons, mollusques, amphibiens, insectes et peut-être même cannibales quand il a très faim. À l'aise dans des températures variant, les pêcheurs lanceurs d'alerte nous disent « Là où le crabe bleu passe, les autres espèces trépassent ». Souveraineté alimentaire, la place de l'élevage français dans notre souveraineté alimentaire et en particulier sur la nécessité d'une juste rémunération des revenus des agriculteurs. Nos questions tout de suite à un éleveur du Rhône.
Pascal Gouttenoir, je suis agriculteur producteur de lait sur la commune de Vindry-sur-Turdine. J'ai 105 hectares pour 60 vaches laitières avec un salarié. En fait, l'État, ils sont en train de se rendre compte qu'ils nous ont emmenés dans une mauvaise direction. Parce qu'à une époque, avec les libre-échanges, ils importaient des produits qui moins chers que ce que nous, on pouvait produire. Donc là, ils sont en train de se dire que finalement, si nos produits étaient venus de France, pour la souveraineté alimentaire, ça serait pas mal. Mais il faut qu'ils nous en donnent les moyens. Et il faut se servir de cette crise. Il faut se servir de la crise en Ukraine et de la sécheresse. Il faut se servir de la guerre en Ukraine pour dire si on produisait en France, qu'on restait en France, ça nous éviterait d'être dépendants d'un événement politique. Et puis, cette sécheresse de dire bah, vous voulez qu'on nourrisse la population, il n'y a pas de souci. Mais j'en reviens à cet accès à l'eau, donner les moyens aux agriculteurs de pérenniser et de sauver ce qu'ils ont mis en place. Quoi. Surtout éleveurs, on va avoir un gros problème d'affouragement à cet automne. Je suis vraiment, vraiment inquiet de savoir comment que les gens vont pouvoir nourrir ceux qui n'ont pas de stock. Et dans l'hiver, ils ne vont plus rien avoir à donner à leurs bêtes. Quoi. Avec la hausse de l'achat, quoi. Économiquement, ils vont être coincés. Aidons-nous des exemples voisins qui marchent pour que nos agriculteurs français puissent nourrir notre population. Donc en fait, là, on a parlé de crise ponctuelle par la sécheresse, mais il y a une crise qui dure un peu depuis plus longtemps. C'est si que les agriculteurs n'ont pas le sentiment, et ils ont raison, que leurs produits soient payés au juste prix. Et effectivement, si les produits étaient payés correctement, ça permettrait d'avoir un petit peu de trésorerie et l'agriculture en général pourrait passer le cap d'une sécheresse. Parce que là, ils ont commencé l'épisode de sécheresse avec aucune trésorerie. Donc en fait, zéro trésorerie et achat de fourrage obligatoire, il y a une équation qui ne se passe pas. Quoi. Donc il faut vraiment que l'État, au-delà de l'accès à l'eau, prenne en compte par la loi Egalim qu'il faut qu'il mette en place pour que l'agriculture soit payée par rapport à son coût de production et honorablement.
Alors qu'on sait que tout augmente, effectivement, sur les marchés, les grandes surfaces, etc.
Alors, je vais viser personne, attaquer personne, mais effectivement, vous dites que ça a augmenté dans les étals. Et ça n'a pas augmenté dans nos...
Dans vos porte-monnaies.
Ça n'a pas augmenté correctement dans nos porte-monnaies. Alors, il y a eu une petite hausse, mais les charges ont augmenté deux fois et demi. Donc là, il y a une équation qui n'est plus possible, quoi.
C'était Pascal Gouttenoir, producteur laitier à Vindry-sur-Turdine, dans le Rhône. Le bioéthanol, une alternative à l'essence pour réduire ses émissions de pollution et faire des économies de carburant qui participent à la transition énergétique. Pour Nicolas Kurtzoglou, responsable carburant au Syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Il est joint par téléphone.
Et moi, je travaille au SNPAA, qui fait partie de la collective du bioéthanol, qui est donc en fait une collective où il y a à la fois les industriels et les agriculteurs, donc les producteurs de betteraves.
Donc c'est avec le collectif que vous êtes actuellement au Salon international de l'agriculture, c'est bien ça, hein. Alors peut-être un petit peu nous parler de cette filière française du bioéthanol.
Eh bien, le bioéthanol, donc, c'est un biocarburant qui est produit à partir de betteraves, de blé, de maïs, de résidus sucriers et de résidus amidonniers en France, dans une filière qui compte 9000 emplois équivalents de temps plein. Et quand on regarde de manière globale, c'est quand même 50 000 agriculteurs dont une petite partie de leur production fait du bioéthanol.
Alors, bien sûr, c'est une betterave différente, c'est une espèce différente.
C'est de la betterave blanche, c'est pas de la betterave rouge, c'est la betterave sucrière. Donc, quand vous avez une betterave sucrière, donc, elle est découpée en petits bouts, elle est mise dans de l'eau chaude, on extrait du sucre une première fois, une seconde fois, et ensuite, le résidu liquide est très souvent envoyé en fermentation, et puis donc pour transformer en éthanol plus de l'eau, et ensuite, on distille pour enlever l'eau et avoir de l'éthanol pur.
Alors, est-ce qu'on parle d'énergie végétale ?
Vous pouvez parler d'énergie végétale, on parle souvent d'énergie renouvelable, de biocarburant renouvelable, mais oui, énergie végétale, c'est intéressant.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, le bioéthanol coïncide avec tous les véhicules ?
Il y a du bioéthanol dans toutes les essences, hein, il faut bien avoir ça en tête. Donc, 5% dans le samplon 95 et 98, 10% dans le samplon 95 E10, et là, le sujet d'aujourd'hui, dans le superéthanol E85, le carburant qui est à la pompe, il contient entre 60% et 85% de bioéthanol, selon qu'on est en hiver, où il y a un peu moins d'éthanol, ou en été, on va jusqu'à 85% de bioéthanol. Le complément à 100%, c'est de l'essence sans plomb, et donc c'est ce carburant-là, qui contient très majoritairement du bioéthanol et un petit peu d'essence, qui est vendu dans les pompes. Ce carburant superéthanol E85 est disponible pour deux types de voitures, soit des voitures flex-fuel d'origine, soit des voitures essence avec un boîtier homologué qui permet donc de rouler aussi à l'E85 et aux autres essences si on ne trouvait pas de pompe E85. Lui, c'est de moins en moins le cas puisqu'il y a 30% des stations qui proposent le superéthanol E85.
Ce qui demande évidemment beaucoup de producteurs.
Aujourd'hui, comme je disais, il y a environ 50 000 agriculteurs dont une petite partie de la production, soit de betteraves, soit de blé, soit de maïs, et utilisé pour faire du bioéthanol.
Alors, c'est des productions de quel type ?
Il ne faut pas y voir quelque chose de mauvais dans le fait que ce soit une agriculture qui utilise des engrais. Le plus on peut produire à la fois de sucre, de nourriture pour les animaux et d'énergie avec le bioéthanol sur un mètre carré, le mieux c'est. Le moins de surface possible pour faire le maximum d'alimentation humaine, animale et d'énergie pour les voitures. Ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement tendue sur l'énergie avec la crise ukrainienne. C'est une très bonne chose qu'on puisse produire une petite partie de notre énergie en France. Et je précise que le bioéthanol en France n'utilise que 0,7% de la surface agricole utile française. Donc c'est extrêmement faible pour beaucoup, beaucoup de voitures. Hein. Ça fait 12 millions d'hectolitres de bioéthanol produit avec 0,7% seulement de la surface agricole utile.
Si par exemple les betteraves deviennent un substitut, hein, j'ai bien compris, d'énergie fossile, par exemple demain, est-ce que c'est possible justement parce que ça demande quand même d'avoir des espaces naturels pour pouvoir produire ?
Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase descendante sur les débouchés sucre à l'exportation. Donc, il y a de moins en moins de débouchés pour le sucre à l'exportation. Et donc, soit ça veut dire qu'il faut baisser les surfaces de betteraves, et ces dernières années, malheureusement, il y a eu quelques baisses de surface de betteraves, soit on maintient les surfaces et on fait plus de bioéthanol et moins de sucre.
Le bioéthanol, une production issue de l'agriculture française. Avec 25% de la production de l'Union européenne en 2020, la France est le premier producteur européen d'alcool agricole. Celui-ci est utilisé majoritairement pour les carburants, bioéthanol, mais aussi pour une large palette d'usages, dont la production de gel hydroalcoolique en réponse à la pandémie de Covid-19. Et en conclusion à notre édition, la programmation des Nouvelles Voies 2022 avec Olivier Bocongibaud d'Horizon, coprogrammateur du festival.
Au théâtre de Villefranche-sur-Saône, on est accueilli toujours par la scène gratuite à 19h dans le Café du Théâtre, qui couvrira la jeune artiste lyonnaise Wendy Martinez.
J'ai assez eu mon amour de charniers au-dedans.
Wendy, c'est évidemment une écriture pop, mais c'est surtout des références 60s, 70s, magnifique, une grande voix avec toutes ces années-là en citation, mais avec cette envie simple de la pop. Et puis on franchit les grandes portes de la grande salle pour aller au théâtre voir dès 20h30 un double plateau magnifique avec deux voix féminines extraordinaires qui sont différentes mais très fortes. Emma Peters.
Je veux pas que le temps passe, je sens que je t'oublie un peu.
Jeune Emma Peters dans une écriture vraiment pop, beaucoup de guitare et qui a fait énormément parler d'elle par YouTube, qui est aussi un des nouveaux, une nouvelle façon de parler au public, plus de 50 000 lions de vues. Une écriture spontanée, jeune, forte, riche en émotions, espiègle aussi à des moments. Et puis elle est suivie par la jeune grande dame de la chanson française, Barbara Pravi.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis.
Qu'on ne présente plus, même si c'est une nouvelle voix, puisqu'elle n'en est qu'à son premier album. Mais quel album qui a fait tant de bruit et l'a fait parcourir toutes les scènes de France. Barbara Pravi, grande, déjà grande de la chanson française, qu'on est très heureux d'accueillir à Villefranche.
Voilà, 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 voilà qui je suis.
Le festival Les Nouvelles Voix du 17 au 22 octobre.
Voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence.
Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade. Voilà.